Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et nous. Je suis Laura Châtelain, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Dans ce podcast, je reçois des profs de yoga passionnés et passionnants pour échanger avec eux sur ce que la pratique change dans notre quotidien, notre rapport au corps ou encore notre santé. Aujourd'hui, je reçois Magali Durier qui est prof de yoga adapté et on va parler de la notion de progrès dans la pratique. Sans trop vous spoiler, je peux vous dire que progresser en yoga, ça ne veut pas forcément dire être capable de maîtriser le corbeau ou la posture sur la tête, et qu'il y a bien sûr différents axes pour faire évoluer sa pratique au fil du temps, quel que soit notre degré d'expérience. Bonne écoute! Bonjour Magali, merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui dans le podcast.
Bonjour Laura, merci de m'avoir invitée.
Mais je t'en prie. Est-ce que tu peux, comme d'habitude, pour commencer l'épisode, te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours ?
D'accord. Alors, moi, je m'appelle Magali, j'habite maintenant en Indre-et-Loire et j'ai commencé le yoga, j'habitais à Paris à l'époque, il y a à peu près 17 ans. Ça fait un moment, quelques années que j'y pensais. Et puis, un jour, j'ai vu des cours pas loin de là où je travaillais. Je dis, bon, j'y vais, je vais tenter. Et il s'avère, c'est rigolo, parce que 2 semaines après, j'ai réalisé que j'étais enceinte. De mon premier fils. Et du coup, ça a été peut-être comme si c'était un appel, en fait, au moment de ma grossesse. Je ne sais pas, je me suis toujours demandé pourquoi, alors que ça faisait un bout de temps que je procrastinais la décision, que pourquoi je me suis décidée à ce moment-là.
Et oui, peut-être ton corps en a eu besoin à ce moment-là.
Exactement. Donc, j'ai commencé le yoga enceinte, en fait, alors au tout début et puis progressivement. J'ai passé une super grossesse, d'ailleurs, avec le yoga. Ma motivation première, si je me souviens bien, c'était que quand j'étais jeune, moi j'avais fait de toute petite, j'avais fait de la gym un peu de gym, un peu de danse, et j'avais une certaine souplesse et je voulais retrouver, tu vois, j'étais vraiment sur l'idée de la souplesse. Je voulais vraiment au moins retrouver, peut-être pas celle que j'avais quand j'étais petite, mais retrouver une certaine souplesse. C'était ça ma motivation de départ. Et donc c'était l'idée que j'avais du yoga, ça rend souple, voilà. Moi, c'était pas... J'ai beaucoup évolué depuis,
ouais, j'imagine.
Sur la vision du yoga. Et déjà là, dans ces premiers cours, je ne saurais même plus te dire si c'était du vinyasa, du hatha, du machin. Mais je pense qu'à l'époque, on ne faisait pas trop ces distinctions-là. Et je découvrais la relaxation, la respiration. Et je pense, j'étais assez speed quand même à l'époque. Et je pense que comme j'étais enceinte, ça m'avait sacrément touchée parce qu'à chaque fois que je me détendais, que je respirais, je sentais mon bébé bouger, et alors que le reste de la journée, pas du tout. C'était vraiment dans ces moments où je me posais que je le sentais vraiment bouger. Et du coup, j'ai vu un lien tout de suite en fait, entre la détente et ce que ça pouvait apporter pour quand on se centre, on se remet sur soi, en fait, on se reconcentre sur soi, ce que ça pouvait apporter. Voilà, donc ça m'avait fait un petit choc, je me souviens. Je me suis dit, bah, dis donc, ça a un sacré pouvoir le yoga quand même à l'époque.
Et du coup, ça t'avait donné envie de continuer, voilà, même après l'accouchement ?
Oui, j'ai continué après. J'ai continué, donc sur les 17 années, j'ai continué avec cette prof-là. Ensuite, j'ai déménagé. Donc, j'avais plus de prof proche de chez moi. Et j'avais, déjà, j'avais intégré, tu vois, les trucs, les enchaînements, les salutations, etc., que j'arrivais à refaire. Donc, j'ai essayé de le faire pour moi-même. J'ai pris des bouquins. J'étais quelque temps autodidacte. Et puis ensuite, j'ai retrouvé une prof vers là où j'habite. J'ai fait plusieurs années avec elle. Et à un moment, elle voulait prendre sa retraite et elle m'a demandé si je voulais prendre sa suite. Et c'est comme ça que j'en suis venue à faire une formation de prof de yoga.
Et est-ce que tu t'es spécialisée tout de suite dans ce que tu appelles le yoga adapté, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que tu proposes. Donc, comment tu t'es orientée vers ça ?
Alors, quasiment tout de suite, parce que déjà dans mes cours... Il y a pas mal de personnes âgées avec des problèmes de santé de toutes sortes, des douleurs, des prothèses, etc. Donc d'emblée, j'ai dû quand même adapter pas mal de choses dans mes cours. Et puis, alors moi, j'avais fait une première reconversion professionnelle en tant qu'art thérapeute. Et dans le cadre de ma formation, j'ai suivi un module de yoga. C'était le yoga pour les publics dits fragilisés. Et quand j'ai fait cette formation, il y a eu plein de choses qui sont entrées en résonance avec ce que je connaissais de l'art-thérapie et la manière dont je proposais l'art-thérapie, en fait. Alors, j'ai vu les choses un peu différemment. Du coup, je me suis dit, finalement, par rapport à une pathologie, à une difficulté, soit je peux proposer quelque chose d'artistique aux personnes, soit du yoga, en fait. Et tu vois, c'est comme ça que j'y suis venue au yoga adapté.
Alors aujourd'hui, je t'ai invité au micro pour qu'on parle de la notion de progrès en yoga ou d'évolution. D'ailleurs, peut-être que c'est un meilleur mot. Est-ce que tu pourrais nous décrire, toi, justement, ton évolution, ta progression dans la pratique, comment tu l'as observée?
Oui, alors moi, j'ai ben d'abord, comme je te disais, mon premier souhait pour le yoga, c'est de retrouver de la souplesse. Donc ça, c'est arrivé. Et finalement, comme j'ai pris une petite claque sur le côté respiration, se centrer sur soi, se connecter à ses sensations, à son corps, etc., ça a été mon évolution principale. C'est d'arriver au fur et à mesure à faire du yoga, à lâcher le côté performance, de la souplesse, des postures, de vouloir aller toujours plus loin dans quelque chose, pour aller plus, au lieu d'aller plus loin dans la posture, j'allais de plus en plus en profondeur dans moi, mes ressentis. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, je peux autant apprécier, enfin, voire même plus, une séance avec des postures, ce qu'on pourrait nommer hyper simples, comme la montagne, l'arbre, des postures vraiment très, très simples. Et moins apprécier des postures complexes où je réfléchis à d'autres choses. Alors voilà, est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis? Comment je vais tenir sur mes mains, etc., qui vont me perturber dans ma concentration. Et du coup, l'évolution, elle a été faite vraiment sur la perception de mon corps et d'arriver à être hyper satisfaite de choses, de postures vraiment simples.
Et est-ce que tu as eu l'impression que ton évolution, elle s'est faite de manière continue, ou est-ce qu'il y a eu des phases? Est-ce que peut-être tu as eu certains déclics, des moments où tu as senti que voilà, que ta vision se transformait ou que tu progressais plus vite, et peut-être aussi des moments où tu avais l'impression de régresser sur certains points? Comment ça s'est fait tout ça?
Alors sur la perception, elle est plutôt en constante évolution. Non, j'ai pas eu de sensation de régression. Alors des fois, dans certains cours que je suis, je vais avoir l'impression que je régresse entre guillemets parce que j'ai ma concentration qui s'évapore, qui va, tu vois, les pensées qui vont être un peu plus. Même en étant prof, on reste des fois très très dispersé. Et donc j'ai parfois des cours que je suis parce que je continue à suivre des cours. Où j'ai les pensées qui vagabondent et je dois faire beaucoup plus d'efforts pour revenir à mon corps et à ma respiration. Tu vois, on peut considérer ça comme des légères régressions, mais je sais aussi que ça fait partie de la vie et que des fois, on est plus ou moins préoccupé et donc on a plus ou moins de difficultés à se concentrer sur soi et à lâcher. Et sinon, après, c'est quand j'ai suivi la formation, j'ai eu beaucoup d'intervenants différents. Et c'est là où j'ai eu au contraire des pics de compréhension et de prise de conscience avec certains intervenants qui ont des mots qui touchent en fait sur l'approche du yoga et comment se sentir, comment percevoir, comment évoluer. Et à chaque fois qu'il y a des choses qui me touchent, moi, c'est des choses que j'essaye de transmettre au mieux. Alors je sais que dans les cours, il y a des personnes qui vont prendre, d'autres qui ne vont pas prendre, en tout cas pas forcément là, pas tout de suite, plus tard. Et puis. Mais en tout cas, c'est un peu mon leitmotiv, c'est de dans les cours, c'est d'aller, quel que soit le niveau des personnes, d'aller vers cette perception de soi et de la concentration pour progresser, comme tu disais, sur le thème de la progression. C'est pour moi, quand on arrive à être dans une perception plus fine de son corps et de ses sensations et de sentir le moment où on s'apaise, le moment où on lâche. C'est là, à mon sens, qu'on progresse.
Oui, bah de toute façon, on va en parler effectivement des différents axes de progrès qu'on peut envisager dans la pratique du yoga. Mais donc toi, tu accueilles tout type de public. Je ne sais pas si tu proposes des cours par niveau, mais on entend parfois parler de pratiques, enfin, ou de cours pour les débutants, ou de pratiques avancées, de cours avancés, intermédiaires, etc. Est-ce que pour toi, ça a du sens de cette notion de niveau en yoga? Est-ce qu'il y a vraiment des niveaux différents? Est-ce que ça a du sens aussi de proposer des cours par niveau?
Alors pour moi, ça n'est que mon avis à moi, mais je pense que ça n'a pas trop de sens parce que on voit pas. Enfin, moi j'ai des cours, j'ai une association qui m'a demandé des cours justement de niveau intermédiaire et je leur ai dit, bah ça veut trop rien dire pour moi le niveau intermédiaire ou avancé. On peut peut-être mettre que c'est du yoga plus dynamique. Tu vas jouer sur le rythme parce que les personnes ont plus de facilité à se placer. Puis le rythme peut, même s'il reste dans la même fluidité, il peut s'enchaîner un peu plus rapidement. Mais j'ai justement pas voulu que dans leur communication, ils parlent de niveau avancé ou intermédiaire, parce que pour moi, ça veut trop rien dire et que quelqu'un qui va réussir, entre guillemets, je mets plein de guillemets, des postures complexes, mais qui en même temps pense à sa baguette, à son qu'il doit acheter, ou à tiens, moi j'y arrive et elle n'y arrive pas, ou à l'inverse, comment ça se fait qu'elle y arrive et moi pas, pour moi, il n'est pas avancé. Même s'il est dans une posture ultra complexe que peu de gens peuvent faire.
Oui, je comprends tout à
Tu
fait
vois
ce que tu
ce
veux dire.
voilà.
Après, c'est vrai que peut-être cette histoire de cours par niveau, c'est peut-être plus sur justement la connaissance en fait de certaines postures, de certains alignements. Enfin, il y a un moment où il faut bien qu'on apprenne des choses quand même dans le
Oui, bien
yoga et on les
sûr. Oui,
apprend
oui, oui, oui.
au fur et à mesure. Et c'est vrai que peut-être si on se retrouve avec que des gens qui connaissent déjà, qui ont déjà 5 ans de yoga, donc si on leur dit le nom des postures en sanskrit, ça leur parle tout de suite. Et toi, c'est ton premier cours. Bon, ça va être compliqué, en tout cas pour le prof, de faire un cours qui parle à tous ces élèves-là à la fois. C'est peut-être plus pour ça d'ailleurs qu'on propose parfois des cours par niveau dans les studios.
Oui, alors c'est rigolo parce que tu dis ça et moi je voyais plutôt l'inverse. En fait, c'est quelqu'un qui était avec une avancée, enfin un certain nombre d'années de yoga et qui venait dans les cours plus débutants. Et tu vois, dans ce que je disais, je voyais plutôt cette image-là. C'est marrant. Alors que toi, tu
Oui,
voyais
bah c'est vrai
plus
que dans ce
débutant
sens-là,
voilà.
même si ça fait 10 ans qu'on fait du yoga, c'est absolument pas un problème d'aller dans un cours débutant, ça y a aucun souci.
Voilà,
Mais
au
c'est vrai qu'à
contraire, ouais.
l'inverse, si c'est ton premier cours que t'as jamais entendu un mot de sanskrit et qu'on commence à te dire des noms, tu sais même pas ce que c'est, et puis t'es la tête en bas, donc tu peux pas regarder la prof qui monte la posture. Enfin, voilà, je pense que la notion de débutant, c'est peut-être plus par rapport à l'apprentissage que par rapport à un niveau de pratique, en fait.
Oui, après, ça dépend peut-être aussi l'approche des cours. Moi, quand je donne les noms des postures, je les donne parfois en sanskrit, pas tout le temps, et aussi en français. Je vais montrer et toujours donner des adaptations pour ceux qui ont si vous le faites de cette manière, on peut prendre la posture de telle manière, de façon à ce que, au mieux, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais qu'au mieux, chacun y trouve son compte quand même avec l'objectif et l'essence de la posture. Je sais pas si c'est
Et toi,
clair.
finalement, quand tu as des élèves qui viennent dans tes cours, à quoi parfois est-ce que tu vois qu'ils ont une pratique avancée de l'expérience dans le yoga et à quoi tu te dis, oui, lui ou elle, effectivement, a une pratique avancée. Donc, j'ai bien compris que c'est effectivement pas du tout par rapport au type de posture qu'il peut réaliser, mais à quel petit signe tu vas voir et tu vas te dire, ah oui, lui, il a cheminé dans sa pratique de yoga.
Ce que je vois, moi, c'est quand les personnes. Bon, déjà, y en a qui font une grande majorité du cours les yeux fermés, qui veut dire qu'ils sont vraiment à l'écoute des consignes, à l'écoute, ils ne font pas du tout attention à leur environnement extérieur et ils font le cours en fonction d'eux-mêmes et qui restent, tu vois, dans une écoute des consignes, qui vont, même s'ils connaissent la posture, ils vont pouvoir réajuster certaines choses en fonction des éléments qui leur sont apportés. Et qui sont, je dirais, qui sont pas agités. Quand tu vois qu'à l'extérieur, ils sont pas agités. Parce que des personnes, à l'inverse, même entre chaque posture, ça gigote, ça, tu vois, il y a besoin de se bouger, de masser, de regarder à droite, à gauche. Et donc, dans les cours, quand je vois quand c'est plus, que la pratique est plus avancée, ou qu'ils ont compris, ils se sont imprégnés de certaines choses en yoga, c'est ça. C'est qu'ils sont, tu vois que, il y a une façade plus apaisée et très très centrée sur elle-même et à l'écoute d'eux-mêmes et des consignes en fait.
Et du coup, alors voilà, ça c'est un des axes de progrès, effectivement, qu'on peut envisager dans la pratique, ce degré de présence, d'attention, au ressenti, peut-être plus aussi qu'à l'aspect extérieur. Ça, est-ce que c'est quelque chose que tu observes qu'au fur et à mesure de leur pratique, certaines personnes arrivent à se détacher de l'aspect extérieur? Alors tu le disais, d'une part, ils pratiquent les yeux fermés, ils sont pas forcément en train de se comparer aux autres, mais à quoi ça se voit d'autre que qu'on a réussi à lâcher cette idée de la posture comme elle doit être vue de l'extérieur et qu'on est plus dans le ressenti intérieur?
Alors, je dirais, c'est pas fréquent, mais c'est quand, parce que tu sais, il y a toujours des choses que tu refais dans les cours, même s'il y a des nouveautés. Et c'est quand il y a ces choses qu'on refait, de voir que les personnes ne le font pas machinalement, qu'elles arrivent à le faire comme si c'était une découverte à chaque fois, en se disant, bah, tiens, aujourd'hui, je ressens ça, de cette posture peut-être rituelle, une posture simple. et de ne pas être dans le côté machinal. Parce que justement, quand on débute, je trouve, ou quand on n'est pas dedans, hein, et on voit au regard, on voit au geste que tout est fait machinalement. Quand on fait une posture et qu'on défait la posture, on voit le côté machinal, hop, on relâche tout d'un coup, sans faire attention à comment on a vécu la posture, comment on se sent après, quel est ce petit temps, là, le petit espace qu'il y a juste après la posture. Et quand il y a ça, je dirais, cette combinaison de ça, du côté pas machinal et du temps qu'on apprécie de créer juste après la posture, je trouve que ben, moi, visuellement, je le vois chez les élèves. Et là, je me dis, ah, c'est bien, là, il ou elle a avancé, tu vois, là-dessus, ce petit
Oui,
temps.
c'est intéressant ça. Tu en avais parlé d'ailleurs dans un de tes posts Instagram sur le sujet, sur comment on fait pour ne pas tomber dans l'automatisme quand effectivement on répète des postures qu'on connaît depuis des années parfois, qu'on pratique depuis longtemps, comment on arrive à redécouvrir quand même à chaque cours ou chaque pratique. Et donc, oui, il y a des gens qui arrivent à être vraiment dans ça, d'en faire comme si c'était la première fois.
Et je dirais que c'est presque le plus compliqué, je pense.
Ouais,
Quand on fait
complètement.
des enchaînements, style salutations, ou des choses qu'on répète depuis des années, hein, même parfois, et de ne pas être dans le côté machinal, performance en disant je vais le faire plus vite, ou si, ou ça, c'est beaucoup plus. C'est une des choses les plus compliquées, je trouve.
Ouais. Je me disais peut-être aussi que une pratique avancée, peut-être que tu peux la remarquer aussi à la liberté que tes élèves vont prendre par rapport à tes consignes, non? Au début, j'imagine qu'on a tendance à vraiment écouter au pied de la lettre les consignes du ou de la prof et au fur et à mesure de la pratique qu'on avance, à plus prendre peut-être même ses propres adaptations quand on en a besoin, des choses comme ça.
Oui, alors effectivement, il y en a quand les personnes ont commencé à accepter que bah, il y a des choses qu'ils peuvent faire, des choses qu'ils ne peuvent pas faire, physiologiquement, il y a des choses qui ne sont pas possibles pour elles, et que effectivement, elles font leur propre adaptation et qu'elles ont pris en compte certaines propositions d'adaptation, et qu'ensuite tu vois qu'elles le font elles-mêmes ou qu'elles sont vraiment à l'écoute de leurs limites. Et que bah, ça revient à la liberté dont tu parles, c'est qu'elles ne vont pas se forcer, elles ne vont pas faire forcément ce que je propose directement, mais venir faire des petits d'autres mouvements pour se sentir quand même dans la posture et tout en étant dans l'acceptation de leurs limites.
Oui, et finalement, c'est peut-être plus à ça qu'on reconnaît le progrès que à un alignement parfait entre guillemets par rapport à l'idéal théorique de la posture. Si effectivement, pour nous, pour notre corps, notre anatomie, etc., nos particularités, l'idéal théorique ne nous correspond pas.
Exactement. Et ça demande effectivement un travail d'acceptation de ses limites, de pas se comparer aux autres, de pas chercher cet idéal et puis d'être vraiment dans ce qui se passe là avec son corps.
Oui, alors, il y avait une question que je me posais. On s'imagine que pour progresser, il faut plutôt pratiquer souvent quand même, que la répétition, en tout cas, va aider dans la progression, dans l'évolution. Est-ce que c'est forcément vrai ou est-ce qu'on peut aussi progresser en ne pratiquant qu'une fois par semaine ou même moins?
Une fois par semaine, ça me paraît pas mal. Moins, ça fait. Enfin, il faut à chaque fois se remettre dedans. Moi, je pense qu'on peut. Par exemple, pour les personnes qui prennent des cours, un cours hebdomadaire, hein, souvent, c'est quand même comment dire, la norme, la régularité, c'est une fois par semaine quand tu es inscrit à un cours. Mais dans l'intervalle, ce que je suggère aux personnes, moi, c'est pas tant de faire des postures parce que souvent, elles ont peur de mal faire. Mais c'est de faire les techniques de respiration assez simples comme respiration alternée, simplement sentir sa respiration, prendre des pauses et arriver à percevoir ce que la respiration fait dans son corps. C'est, je pense qu'en solo, la truc le plus simple pour progresser, c'est d'aller dans la perception de son corps et notamment des effets de la respiration sur son corps.
Oui, effectivement, ça c'est un conseil intéressant, même quand on se dit, bah mince, je peux pas pratiquer souvent dans le sens, je peux peut-être pas aller à plus d'un cours par semaine, pas aller en studio souvent. Ne serait-ce que ça, effectivement, prendre l'habitude de revenir à son corps de temps en temps dans le quotidien, voilà, mine de rien, ça va nous faire progresser en fait en yoga.
Oui, ça peut même être, tu vois, j'ai déjà dit à mes élèves, si le matin vous vous étirez en conscience, en respirant, en étant vraiment pleinement à ce que vous faites et aux effets des étirements sur votre corps, vous êtes déjà en yoga, finalement. Il n'y a pas besoin d'aller, tu vois, faire un simple étirement avec les bras en l'air, pas besoin d'aller dans des trucs complexes pour se sentir faire du yoga. si les personnes ont peur d'enchaîner des postures et de pas être à l'aise avec ça, on peut très bien de temps en temps faire des mouvements simples en associant le souffle avec ces mouvements et en étant pleinement en conscience. Et pour moi, c'est déjà un progrès du yoga, en fait, c'est déjà une avancée.
Et alors, tu en parlais un petit peu tout à l'heure quand tu t'es présenté, tu parlais des personnes, des profs qui t'avaient aidé, toi, à progresser au fur et à mesure des cours que tu prenais avec eux. Ça, tu penses que c'est une des clés aussi de la progression, finalement, d'échanger, même si on commence à avoir une certaine pratique et qu'on peut pratiquer seul à la maison, mais de continuer à prendre des cours avec des profs, dans l'idéal peut-être en studio. Ça va faire aussi avancer plus vite, ça va créer des déclics, ça va permettre de se poser des questions aussi peut-être sur sa pratique, de la remettre en question parfois.
Ah oui, absolument. Je pense qu'après, on ronronne en fait. Si on n'est pas, on continue pas à suivre des cours, si on continue pas à explorer d'autres choses, on ronronne, je pense qu'on tombe vite dans le côté machinal, on va faire toujours les mêmes choses parce que c'est confort, parce que c'est ce qui nous vient à l'esprit, parce que... Et du coup, c'est d'autant plus dur si on ne découvre pas de rester dans cette progression de ressentir et de se centrer sur soi. Et en plus, on peut, au fur et à mesure qu'on rencontre des personnes, et ça peut être aussi des vidéos sur YouTube, j'ai trouvé des personnes super inspirantes sur YouTube, tu vois, de temps en temps, et qui m'apportent en fait. Ça m'apporte dans ma pratique, et donc quand ça m'apporte et que ça me touche, bah, j'essaye de le transmettre aussi pour voir. Je me dis peut-être que dans le cours où il y a une douzaine de personnes, ça va peut-être toucher une personne, et ce sera déjà super si elle aura pu progresser grâce à ce que j'ai dit que moi-même j'avais reçu auparavant.
Oui, toi, en tant que professeur, pour progresser, tu as besoin effectivement d'être inspiré par des choses ou des gens qui vont venir enrichir à leur tour ton enseignement et ce que tu
Oui,
peux
oui,
apporter.
oui. Et même dans des yogas qui ne sont pas j'ai appris et j'enseigne le Hatha Yoga, je vais même essayer, tu vois, d'autres types de yoga pour. Parce que je pense qu'il n'y a pas un yoga qui est intéressant. Et dans chaque pratique, il y a presque autant de yoga que de prof, donc je crois qu'il y a vraiment à y retirer. En tout cas, moi, je retire un bénéfice de chacun des cours que je peux prendre, quel que soit le prof, et je peux en retirer toujours une bien-être, bien sûr, mais même une petite pépite, une satisfaction, quelque chose qui m'a... Ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose, où j'ai compris une signe différemment, du coup, j'ai fait ma posture un poil différemment, mais je l'ai faite... autrement, et donc j'ai ressenti d'autres choses. En tout cas, pour moi, c'est super important de continuer à me former et à recevoir.
Et est-ce que tu aurais un dernier conseil ou une dernière chose que tu aurais envie de dire sur cette idée de progresser en yoga?
J'ai pas beaucoup parlé de la respiration, et je crois que c'est vraiment c'est pourtant un pilier hyper, presque le, enfin, c'est le pilier du yoga, et je pense que le conseil, c'est lié à la respiration. En se concentrant sur sa respiration et sur ce que ça crée dans le corps, je trouve que c'est les clés de la progression du yoga. Et la respiration, on peut aussi la faire, comme je disais tout à l'heure, tu vois, en annexe d'un cours de yoga, ça peut être à n'importe quel moment. Et plus on va s'entraîner à respirer, à sentir notre respiration et à voir les effets que ça procure, plus on va progresser, je pense, en yoga, parce qu'on va pouvoir appliquer les techniques de respiration à nos mouvements, à nos postures, en fait, à tout ce qui se passe dans le cours de yoga.
Oui, et notamment peut-être pour les gens qui veulent s'orienter vers un yoga dynamique, ça va être important aussi pour pouvoir tenir les enchaînements, réussir à le faire sans être complètement essoufflé ou se perdre, etc. Là, ça va être une des clés pour progresser en vinyasa ou autre yoga dynamique.
Exactement, d'autant que dès que, enfin, j'ai l'impression dans les cours, ce que je constate, dès qu'il y a une difficulté supplémentaire, ce qui est un peu logique, hein, il y a une consigne supplémentaire, la première chose qui passe à la trappe, c'est la respiration. Dès que c'est un peu rythmé, dès que c'est un peu complexe, hop, les personnes sont en apnée. C'est seulement au bout d'un moment qu'elles pensent à souffler parce qu'elles n'en peuvent plus. Et du coup, effectivement, plus on va s'entraîner à côté, à respirer, et plus on arrivera à intégrer même dans les postures complexes plus dynamiques.
Alors, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de pratiquer avec toi ou de te suivre peut-être sur Instagram ou autre?
Alors, sur Instagram, pour me suivre, c'est Yoga Adapté, de A à la suite. J'ai aussi un site internet www.yoga-adapté-sans-accent.fr. Et puis sinon, moi j'enseigne dans l'Indre-et-Loire, enfin Indre-et-Loire et tout autour, Maine-et-Loire, Sarthe. Bah, du coup, par le biais d'Instagram ou du site, on peut me contacter parce que je donne quelques cours en visio quand j'ai des demandes pour des cours individuels en visio. Mais sinon, je donne plus de cours collectifs en ce moment.
Eh bien, parfait, ben, je remettrai tout ça dans la description de l'épisode. Et merci beaucoup, Magali, d'avoir été avec moi pour échanger sur ce sujet que je trouve vraiment très intéressant.
Merci à toi, Laura.
À bientôt.
À bientôt.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à le noter sur Spotify ou Apple Podcast pour le faire connaître. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Thank you.